Amar Rav Yosef, et là c'est fondamental.
Ah là là.
Alors passons l'attention là, ça va y aller là. C'est celui qui dit quoi? Il n'y a pas besoin d'entendre. C'est le monde entier qui clame, qui pousse une clameur, et qui dit quoi? Kegon Hané d'Amré, comme ceux qui disent, et entendez-la le monde entier qui clame, Moya Hanulan Rabanan, à quoi nous servent les Chachamim? À quoi ils nous servent? À quoi nous servent les Chachamim? À quoi sont-ils bons pour nous? Les Dinou Karou, les Dinou Tanou. S'ils, carré, tané, carré, c'est étudier les versets, et Tanou, c'est la Mishnah. Puisqu'on est, on est encore à l'époque de la Mishnah. C'est pour eux-mêmes qu'ils étudient. À quoi sont bons les Chachamim? C'est pour eux-mêmes qu'ils étudient. Ça, c'est en dessous, hein. Pourtant, c'est en dessous de celui qui dénigre autrui en présence de Chachamim. Ça, c'est la fille Ross dans cette deuxième version. C'est donc gradué. D'accord? Je m'arrête là, Rav Yosef, parce que je vais poursuivre après. Mais là, c'est déjà important. Ça n'a l'air de rien. C'est quelques mots. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est énorme. Mai ahanulan rabanan. À quoi nous sommes bons les rachas? C'est extraordinaire. Les Chachamim qui disent, ben voilà, ça c'est la fréquence. Qu'est-ce que c'est que le libertin? Si c'est lui qui dit, ben à quoi sert? À quoi nous sommes bons? Évidemment, il faudra savoir, c'est qui ce nous? À quoi nous sommes bons, les Chachamim? À quoi nous sommes-ils bons? C'est pour eux-mêmes qu'ils étudient. Entendez, c'est pour eux-mêmes. Et pas pour le monde. Les Chachamim ne sont pas utiles au monde. Donc je reviens là-dessus. Je m'apesantis un peu là-dessus. Que ce soit l'Afrikoros ou le Mégalépanim, la Torah, il s'agit de bisous. De contention. Il s'agit d'une critique et d'un mépris des Talmidei Chachamim. Ça c'est clair. D'où Rashi, chaque fois qu'il est parlé de la Ficoros dans le chasse, Rashi dit tout de suite, mais vas-y Talmidei Chachamim. C'est sa glose récurrente. Chaque fois qu'il est question de la Ficoros dans le chasse, mais là, c'est un verre. J'en sais quelque chose, hein, puisqu'on m'a accusé de. Seulement, voilà, c'est gradué. C'est un mépris des Talmidei Chachamim gradué. Il y a une graduation dans la contemption. La figurance est pire, plus grave. Le mégalépanime pas toi. Je traduirai pour le moment la figurance, donc j'ai déjà dit que c'était le libertin. Et disons pour le moment, mégalépanime pas toi, l'impudent. L'impudent. Le libertin et l'impudent. Qu'est-ce que maintenant, puisque les temps s'appesantir un peu sur le texte, qu'est-ce que c'est cette expression de mégalépanim batora? Revenons à cette expression. Ça veut dire quoi? Alors déjà, qu'est-ce que ça vous évoque? Mégalépanim batora. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça deux, je veux dire qui? Par analogie,
premièrement,
et par opposition, deuxièmement.
Qu'est-ce que vous avez, cette expression vous évoque par analogie?
Quelle expression analogue?
Chez Vimpanim.
Hein?
Chez Vimpanim.
Non. Les Vimpanim, les revient.
Non, bien, d'accord. Bon, ah. C'est intéressant ce que tu dis, mais je parle de l'expression elle-même, pas de l'idée des familles. Une expression qui ressemble, analogue à celle de mégalépanier. Bon, je vais le dire autrement, comme ça, ça va peut-être les faire sursauter. Dilouille panim. Ouais, bon, ça, mais ça, c'est par opposition. D'accord, donc ça, par opposition, vous auriez dû penser, comme Jonathan l'a fait, à Esther panim. Voilement de la face. Mais maintenant, terminons, complétons. Par analogie, cette expression. J'ai dit guilou de panim, alors quoi? Bah dites-moi, vous n'avez pas l'esprit mal tourné.
Benjamin n'ose pas se lancer.
Vas-y. Faut que ça tombe sur toi.
Ah bah oui, forcément. Guilou Yariot.
Non, Guilou Yerva.
Ah, regarde, bon, c'est pareil.
Guilou
Yerva. Autant mettre le...
Mégalépanier, c'est... Il existe une formule analogue. C'est Mégalé-Herva. Dans le Mikra, c'est l'expression la plus fréquente, c'est Guilou-Herva. Mégalé-Panim n'est pas dans la Torah. C'est une expression que les Chachamim ont forgée. Qu'est-ce que ça veut dire, Guilou-Herva? Je veux dire, attention aux oreilles chastes. Soyez précautionneux. Ça veut dire quoi, Guilou-Herva? Hein?
Oula.
Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Exhibitionniste. Mais non, dans le livre, ça veut dire quoi, Guilou Yerva? C'est un euphémisme. Guilou Yerva, ça veut dire le coït. Ah, que l'exhibition. Ça dépend. Quand c'est caché, c'est qu'il vaut mieux faire ça bien que simplement de l'exhibition. Donc c'est le coït. Mais, c'est un euphémisme. Ça veut dire quoi, littéralement? Dévoilement, la nullité. Herva étant la nullité. Ça, c'est Guilou Herva. Non, mais c'est important, hein. Je ne fais pas ça par vice. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. C'est important, c'est de... c'est de comprendre l'expression Guilou Panim. Commençons par Esther Panim. Le Esther Panim, ça se dit d'ordinaire, la formule la plus connue, c'est évidemment la Astarat Panim du Saint Béni soit-il. Le voilement de la face du Saint Béni soit-il. Le déficit, pour le dire comme cela, le déficit de providence. Hein? Pour nous, modernes, juifs modernes, on parle du Esther Panim durant la Shoah. Ça se dit, comment on dit, le silence de Dieu pendant la Shoah. Ça se dit ça. Dans la chambre du Mikra, c'est Esther Panim, le voilement de la face. Seulement, j'ai trouvé un verset qui n'a rien à voir, enfin qui n'est plus du tout, qui ne parle plus du voilement de la face du Saint Béni soit-il, mais d'autre chose. Et c'est étonnant parce que ce verset, effectivement, a des accents qui rappellent ceux de notre passage ici dans le livre. C'est un verset d'Ishaïaou. Un verset d'Ishaïaou qui dit la chose suivante. C'est verset Nun Gimel, Passouf, Perek Nun Gimel, et c'est le verset Gimel, mais je vais reprendre le premier verset, Aleph Bet, jusqu'au Gimel. C'est les Goy qui parlent, les nations qui parlent. Les nations à qui l'on promet qu'Israël deviendra une grande nation. Mais quand on le leur promet, quand on le leur annonce, quand on leur annonce l'avenir prochain et glorieux d'Israël, les nations disent, Israël n'est qu'une tribu de métèques puants. Alors les nations, ils rigolent. Et disent, mi shumadeno, qui peut croire ce qu'on nous annonce? Qui peut croire ça? Nous aurons Hachem, Alminiglata, et la puissance de Dieu sur pour qui elle va se révéler. Pour ça, ces bergers malodorants. Vayal, Kayonek, Lefanav. Il va pousser, monter, grandir, croître. Kayonek, Lefanav, comme un surgeon. Il croit, pas il va, il croit comme un surgeon devant lui. Vachoresh, mais Eresia, comme une racine hors d'un sol aride. L'auto-arlo, velohadar. Il n'y a pas presque. Sans apparence, sans hadar, sans éclat. Venir et où velomar et venechmedeu. Venir et où un surgeon que l'on contemple, velomar et, mais qui n'a pas d'apparence, en sorte que nous le désirerions. Nechmedeu, qu'il soit nechmad. Ça a une allusion de la Genèse. Et le verset Guimel dit, il s'agit toujours d'Israël, Nivzé. Donc on va retrouver le bisaïol, la contention. Il est méprisé, ou méprisable. Vachadal Ishim. Sans âme. C'est comme un homme malade, un homme souffreteux, vidoir roli, dont on connaît, dont on sait la maladie. Donc on s'écarte. Je ne sais pas si vous arrivez de croiser des. Hélas, ça arrive. Croiser des mendiants, enfin des. Comment on dit? Des SDF. Des sans domicile. Enfin, des mendiants, des clochards. On s'en fout. C'est malade. C'est ça. Ishmachor. Et voici notre verset. Voici ce qui nous intéresse. Uchemastir panim mimeinu. Et il est comme ce peuple, mastir panim. Il est comme se voilant la face de nous. Pourquoi? Mais parce qu'il a tellement honte de son apparence, de son état, qu'il se voile la face pour ne pas être l'objet de la curiosité ou de la malveillance. Comme les lépreux dans Bénure. Les lépreux voilent la face pour ne pas être vus, ne pas être regardés. Ou remastir panimé. Nivzé, il est méprisé, velo chachavnou. Et nous n'avons pas d'égard pour lui. Voilà ce que les nations disent d'Israël. C'est évidemment ça. Les consonances sont nombreuses avec notre passage. Ce qui m'intéresse, surtout dans le passage, c'est que c'est une des rares fois où Esther Panim se dit non plus du saint béni soit-il, mais de l'homme. C'est rare dans le soutien. La plupart du temps, c'est Astara Panim. Il s'agit de l'Astara Panim pour rendre la face de Dieu. Quand il est question de l'homme, comme il est question là dans Mégalépanim, puisqu'il s'agit bien d'un homme, le Mégalépanim serait donc, pour ainsi dire, où les Chachamim auraient forgé l'expression de Mégalépanim, par opposition au mastir panim, à celui qui se cache la face. Donc, dans un premier temps, dans un premier sens, mégalé panim batora, ça signifierait, ou ça désignerait, celui qui, au lieu de se voiler la face de honte,
Ah, quelle honte! La honte qu'on éprouve, la honte qu'on éprouve de son, de sa petitesse, dans l'étude, puisqu'il s'agit de on est dans Batora. Donc celui qui, au lieu d'éprouver, au lieu de se voiler la face, évidemment c'est une image, au lieu de se voiler la face, parce qu'il éprouve la honte de sa médiocrité dans l'étude. Parce qu'il en a honte de sa médiocrité. Celui-là, au lieu de cela, mégalépanim, il se découvre la face. Il découvre la face. Donc au lieu de se voiler la face de honte parce qu'il se sent méprisable à l'épreuve du texte. Il se sent méprisable. Au lieu de cela, mégalépanim, il découvre la face. C'est pour ça que Rambam, dans son commentaire d'Avot, peut, lui, et citant un Yerushalmi, parce qu'il existe une autre occurrence de Mekalepani Batora dans Yerushalmi Péa, où l'on définit le Mégalépanim comme étant le Méaïspanim, l'arrogant. C'est celui qui découvre la face. L'impudent. Et vous allez comprendre pourquoi je parle d'impudence, parce que, évidemment, je vais en venir au Giloui Erva, à l'analogie de Giloui Erva. Mais là, déjà, il y a déjà l'idée d'impudence. Découvre la face de l'homme. Il n'éprouve pas devant le texte, à l'épreuve du texte, il n'éprouve aucune honte. Aucune honte. Il n'éprouve pas la honte d'être médiocre. Qu'un tel type, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, ne vont pas loin, je veux dire, dans l'approfondissement du texte. Maintenant, deuxième sens, avant d'en venir à l'analogie avec le Giloui, et enfin, toujours dans le Giloui Panim, deuxième sens, c'est toi qui y faisais allusion, Ezra, quand tu parlais des Shireim Panim à Torah. C'est que le Panim, c'est plus la face du bonhomme, mais c'est les visages de la Torah. Les visages de la Torah. Donc là, le mégalépanime Batorah, c'est celui qui découvre des visages dans la Torah. Qui découvre, cette fois, découvre. Qui découvre au sens découvrir. Ils étaient couverts, il les découvre. Il les exhibe. Il les exhibe. Même pire. Et c'est là l'analogie avec le Giloui Erva. Giloui Erva, dénudé, découvrir la nudité, c'est couché. Là, c'est pareil. Mais Galipanim Batora, il découvre, il exhibe le texte et le viol. Il fait du texte un objet obscène. Et ça, bon, c'est des mots un peu forts peut-être, mais ça, évidemment, c'est la plupart des productions que l'on trouve sur la Torah, c'est, ça relève de cette obscénité-là. Mais même pas sûr que les dynastes pupus. Marquin ou juste à la mélange. Il n'est même pas sûr que les dynastes échappent à cette obscénité. Tout obsédé du visage qui est. Donc,
Le mégalépanimbadora, c'est celui qui, premièrement, ne se découvre, qui découvre la face, mais aussi qui dévisage le texte comme s'il le dénudait. Ça, c'est cette obscénité-là, ça, c'est le mégalépanimbadora. C'est le pire. Il est pire que la cause. Revenons à Rabbi Yosef. Non, je viens de le dire. Ouais. C'est ce que je viens de dire.
Sur le gars avec Benin. Sur le picot, c'est pas de.
Merde.
Rabbi Yosef dit. C'est ceux qui disent.
Excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas là, parce que le mégalépanimbadora, donc en fait on arrive à la synthèse que c'est celui qui découvre, dénude le texte. Ça, a priori, comme ça, pris comme ça, c'est pas mal. Mais il le fait, certainement avec une idée de dénigrer alors, parce que sinon.
Non, ça tient. Oui.
Parce que sinon, dans ces cas-là, c'est le job de. C'est un bon job, ça. C'est un bon truc de faire ça, d'aller. De découvrir le texte, de
regarder,
faire ressortir le.
Tu joues sur les mots de découvrir, il s'agit.
Oui, mais alors justement, c'est dans quel.
Il y a découvrir en. Ce qu'on appelle l'approfondissement du texte. C'est en vérité. Passer sous le voile. Passer derrière le rideau. C'est pas ouvrir le rideau. Youhou ! Le texte ! C'est comme dans tous les livres de vulgarisation. Ça. On ouvre le rideau. Vous voyez ? Ça, c'est Pupus et compagnie.
Pupus. Mao. Aïe.
Mao, il y a Mao et
Mao. Il y a pire, hein. Allez voir sur YouTube, là, je suis pas mal ici.
Ah, oui, ah, bah, non, mais là c'est. Là, on est déjà dans le Guéhinnam.
Mais est-ce qu'on ne veut pas, là, ici, montrer du doigt l'intention
du texte, un objet obscène. Approfondir un texte, ça n'est pas violer son.
Oui. J'ai encore du mal à voir la différence entre le dévoiler, bon, dénuder le texte, bon après c'est de la sémantique, et de l'approfondir. Si on n'a pas la mauvaise intention de dénigrer en définitive la parole de Hachem ou des Rachamim, si on veut, puisque c'est le
sujet. Je ne sais pas ce que vous appelez mauvaise intention. C'est quoi mauvaise intention?
Il y a une intention.
C'est le paradis, le paradis.
Non, non, mais pas
ouais, l'enfer, c'est pas le
non, mais c'est, non, mais je veux dire.
Quoi?
On parle bien de quelqu'un qui est là, qui refuse les mitzvot, qui abolit.
Laissons ça de côté.
Il est dans la même soupe là, mégalépanim, c'est également celui qui veut détruire, dénigrer la parole de Hachem.
On dit que c'est ça. C'est quelqu'un qui, par exemple, n'a pas l'intention, cette intention mauvaise de.
Ben alors.
Mais il l'est. Sans le savoir.
C'est ça que je comprends pas.
Quoi ?
J'arrive pas, à piger le truc. Pourquoi dans ces cas-là de pas.
Vous ne comprenez pas.
Non.
Tu ne comprends pas.
Non.
Tu ne sais plus. Tu ne comprends pas qu'on puisse mépriser ou dénigrer sans savoir. Sans mauvaise intention.
Ouais, non, ça je comprends pas. Ouais.
Tu l'apprends. On peut dénigrer, faire du texte un objet obscène, sans intention particulière, enfin particulière, sans avoir conscience de mépriser Dieu. Non, non. Je dis la même. C'est même peut-être dans de bonnes intentions qu'on le fait. Dans de bonnes intentions.
Il a raison, il faut voir sur YouTube pour comprendre.
Ah. Comment ?
Tu as raison, il faut aller voir sur YouTube pour comprendre ce que ça veut dire.
L'obscénité, parfois c'est comique.
Oui, mais donc, ils ont de bonnes intentions aussi.
Non, mais c'est ça. Les bonnes intentions ne garantissent rien. Ne nous garantissent contre aucun péril, contre aucun danger.
Alors, dans ces cas-là, est-ce que tu peux définir le comportement de celui qui étudie et qui donc étudie, on va dire, dans la bonne façon, sans dévoiler, retirer, ouvrir le rideau, et celui qui approfondit quand même,
parce que ça commence par l'épreuve de la honte, du mastir panili. Si devant le texte on n'éprouve pas la honte d'être médiocre, c'est fini, c'est cru. C'est qu'on est un impudent. Ben ouais, tu peux rien, c'est comme ça. Ben c'est dur d'étudier. Revenons donc à la deuxième partie, à Rav Yosef. Rav Yosef dit, c'est pour eux-mêmes, les dits de vous, c'est pour eux-mêmes qu'ils étudient. Les dits de vous, Karou, les dits de vous, Tanou. Pour eux, non. C'est pour eux, pas pour le monde. Car qu'est-ce qu'ils font, eux, pour le monde, ces gens-là, ces rabbins-là, rabbanan, ces rabbins, qu'est-ce qu'ils font pour le monde? Lui, le chacham, le sage, mai ahane lam, de quel profit est-il pour nous? À quoi nous est-il bon? C'est qui nous? Mai ahane lam, en quoi est-il bon pour nous? C'est qui nous? Qui parle? On sait que c'est... C'est moi encore que la pifforce. Mais c'est qui? Non, c'est la pigorance, pardon. C'est la pigorance. C'est qui nous? Maï Ahanelan. Enfin, je ne comprends pas. C'est une question difficile que je vous pose. À quoi nous est-il bon? Qui dit ça? Je vous ai dit que c'était une clameur. Le monde, entre guillemets, pousse une clameur. Maï Ahanelan Rabbanan, que nous servent les rabbins? Là, c'est la multitude.
C'est les Amarets,
non? Non, c'est la multitude. Aïe, pas l'œil, tu n'es pas trop. La multitude. Indéfiniment expansive. Égoïsme du sage, les dit de vous, pour eux, c'est pour eux qu'ils étudient. Égoïsme du sage, alors ça c'est extraordinaire. La multitude accuse le sage, les sages, d'égoïsme. Et pourquoi? Et quand même, c'est quand même pas la multitude qui va donner les leçons d'altruisme. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pire que l'égoïsme. Les rabbanan, le chacham, il est inutile. C'est pas qu'il est égoïste, il est inutile. Alors quelle différence il y a? Vite fait. Quelle différence y a-t-il entre l'accusation d'égoïsme? Et il y a l'accusation d'égoïsme. L'édit de vous, mais elle est précédée par l'accusation d'inutilité. Mai ahanelan. À quoi nous sont-ils bons? Ils sont des inutiles. Oh, ça, je l'entends tout le temps. Mais tout le temps. Mes beaux frères. Mais à quoi tu sers? À quoi vous servez les inutiles? Dit désaffectuel, bon, parce que c'est un peu plus chic que Rahamim dans leur bouche. Enfin, ça revient à ça. À quoi vous êtes bons? Vous servez à rien. À rien. D'autres disent, vous brassez du vent. Brasseur de vin, moi il y a des brasseurs de bière, vous c'est du vin, ça se voit pas le vin, ça n'enivre pas le vin. En quoi ils ont tort? Parce que les idées parfois enivrent. Mais disons, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent? Pas qu'ils sont des égoïstes. Tout le monde est égoïste. Même la multitude, c'est la première à en convenir. Bien sûr. Mieux. C'est bien l'égoïsme. Mais pas tous les égoïsmes. L'égoïsme d'un intellectuel, il est vain. Il est inutile. Il n'est pas économique. En revanche, l'égoïsme des crasseux, des pouilleux, des vicieux, celui-là, il est clean. Je vous, en fait, je vous dis ça parce que je suis sous le coup d'une lecture que j'ai faite. J'en ai déjà parlé. Lisez ce livre parce que j'imagine que parmi vous, il y a des libéraux. N'est-ce pas, Jonathan? Des libéraux? Je ne veux pas dire les macronistes.
Les gars, ça fait 5 minutes qu'on a parlé.
Des libéraux.
Je t'avais dit. Ça, on sait que ça.
Il y a un livre dont Hayek lui-même, Hayek, la pourriture, sans doute l'une des plus grandes pourritures que le XXe siècle ait engendrée. Hayek a dit de lui, c'est lui notre précurseur. Qui lui? Manteville. Manteville écrit au XVIIIe siècle, 1704. Donc on est libéralisme, il y a encore balbutie en Hayek. Eh bien, Manteville écrit un livre qui s'appelle « La fable des abeilles ». Lisez-le, c'est pas grand-chose, c'est une trentaine de pages. La fable elle-même, après, il a rajouté des commentaires. Ce livre est un des livres les plus abjects qu'on ait écrit. Mais c'est pas qu'il est abject, c'est pas un méchant, Manteville. C'est le livre le plus cynique, le plus sur la condition humaine. En gros, sa thèse, parce que voilà, j'y viens, vous lirez, il faut absolument le lire, c'est un livre fondamental pour comprendre le monde moderne, c'est-à-dire le monde depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le monde bourgeois. Si vous voulez comprendre quelque chose au monde bourgeois, il faut lire Manteville. Enfin, si vous voulez comprendre quelque chose aux abeilles, lisez Manteville. En gros, sa thèse, c'est la suivante. Arrêtez de vouloir que le monde soit meilleur. Arrêtez de vouloir que les hommes soient meilleurs. Arrêtez. Les hommes, c'est des pourris. Les hommes, c'est des merdes. Ils sont égoïstes, vicieux. Mais, dit-il, grâce à Dieu, alors on est soufflé. Grâce à Dieu, on se croit, c'est un moraliste, pas du tout. Grâce à Dieu, c'est tant mieux comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est les vices privés qui contribuent à la prospérité de tous. Ah, c'est monstrueux. C'est la chose la plus abjecte qu'on ait dite sur la condition humaine. Mais c'est le basis, c'est le fondement de tout libéralisme. Le libéralisme est fondamentalement, foncièrement cynique. D'accord? Il croit, dur comme fer, il croit que les vices, quand vous en faites un conseil de l'ONU, enfin de l'humanité, ça donne la prospérité. Génial, c'est extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, il y a une exception, évidemment. Une exception. Les vicieux, les pourris, les voleurs, les prostituées, les arnaqueurs, tout cela, alhamdoulilah. Heureusement qu'il y en a, il y en a qu'un qui est une vraie merde, un inutile, c'est l'intellectuel. Alors lui, rien à en tirer, rien. Mai ahanelan, qu'est-ce qu'il est, à quoi est-il bon pour lui, mai ahanelan. Ça c'est la chose. Ça c'est Rav Yosef. Donc vous voyez que Rav Yosef, sentait bien la ville déjà, et très loin. Il avait une flair. Seulement, pour terminer, ça c'est la Ficorce. La Ficorce qui dit, voilà, ça, son étude. Donc, elle est inutile et elle est égoïste. Parce que, évidemment, si elle était inutile mais altruiste, allez, on dirait, ça passerait. Yeah, on ne raconte pas d'histoire, un intellectuel, ça souffre, comme tout le monde, d'amour propre. Donc, quand il étudie, c'est pour lui. C'est pour qu'on dise de lui, ça t'a mis ça un rat. Voilà. Bon, ça c'est connu, Paul en a fait aussi. Donc, là, ça c'est. Seulement, ce n'est pas le point le plus critique. Le point le plus critique, c'est quoi, à votre avis? Soit il y a des hommes, des abicorsines, qui accusent les rachamim d'être des inutiles et des égoïstes. Seulement, c'est quoi le pire, à votre avis? Non, n'allez pas chercher un autre, hein, il n'y a pas une autre configuration. C'est quoi? C'est quoi le pire dans l'histoire? Allez, petit effort. C'est quoi le pire?
L'accusation d'inutilité.
Oui, non.
Pire que ça.
Non, mais c'est la même.
C'est
mais ça, c'est pas le pire, c'est la même chose. T'as raison. Mais c'est ce qu'il dit déjà, Rav Yosef. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose là. Voilà ce que dit Rav Yosef. Mais dans ce qu'il dit, il y a une conséquence à laquelle on ne pense pas et qui est au fond pire que ce que Rav Yosef dénonce. C'est quoi? C'est tout ça. C'est que, tout simplement, l'intellectuel lui donne raison. Tant que l'apicoros dénigre le chacham en disant « Tu ne fais qu'étudier pour toi, non, par égoïsme, et tu, ton étude est inutile. » Et qu'on dise « Mais il ment, il se trompe, en vérité, il se trompe. » Certes, c'est des apicorsines, mais au fond, ils se trompent, les apicorsines. Donc, c'est pas ce qu'il y a de terrible, c'est quand l'intellectuel donne raison à l'apicoros. En faisant quoi? En étudiant, comme l'apicoros l'accuse. En étudiant par égoïsme et pour rien. C'est ça le pire. Le pire, c'est pas au fond que les apicursines accusent les rabbanan de, enfin, les noms des Torahs d'être des égoïstes. Le pire, c'est que ces noms des Torahs, c'est que ces noms des Torahs leur donnent raison. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Il ne s'agit pas pour l'étudiant la Torah il ne s'agit pas de prétendre. Que, comme on le verra, parce qu'il faut voir la suite, de prétendre que le monde, comme dit Rachid le dit, il dit, Maï Ahanelan, à quoi nous sont bons les Rabbanan, Rachid dit, Vehem, et ses apicursim, Hem, Enan Yodain, eux ils ignorent ces apicursim, ils ne savent pas, Sheolam Mitkayem Aleem, que le monde existe. Grâce aux Chachamim. Ça, c'est Rashi. Mais imaginez un petit lomet de Torah qui lit Rashi, il va dire à la Picoros, mais moi, grâce à mon étude, le monde existe. Le préhension, ça, n'importe quel fou vous sortira ça. Le monde, voilà, il est cueillé à la Torah, il est obéi à la Torah. D'accord ? On le voit, mes bras, comme ces remèdes sur la Torah, ils sont tous escrocs pour avoir de l'argent, on ne sait pas quel compromis ils passent, mais ces remèdes à la Torah, ben, ces remèdes à la Torah. Donc ça, c'est des blagues, c'est des prétentions. En vérité, ces types, ils étudient exactement comme l'Apicoros le dit. Ils étudient par amour propre et pour rien. Leur étude, elle est vaine. C'est ça le pire. Ce qu'il faut pour se soustraire au bisayon, à la contemption de la Ficoros, ce qu'il faut, c'est que nous étudions au point que l'on dise, que l'on puisse dire, oui, le monde existe. Par mon étude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'agit d'étudier si bien que l'on puisse dire le monde vaut la peine d'exister. C'est comme une responsabilité, une véritable responsabilité pour le monde. Vous savez qu'il y a une expression de ça. Dans l'existence éthique et humaniste, on parle de responsabilité pour les autres hommes. Responsabilité de soi, de chacun, pour les autres hommes. Mais il y a une responsabilité du Chacham pour le monde. Mais de quelle sorte ? De quelle sorte ? Pas une responsabilité écologique. C'est quoi la responsabilité de l'écolo ? Parce que l'écologie parle d'une responsabilité pour le monde. C'est quoi cette responsabilité écologique ? Cette responsabilité écologique, elle est seulement soucieuse de la conservation du monde. Il ne s'agit pas de cela dans l'étude. Il s'agit d'une responsabilité, je dirais, éthique, relative à l'existence même du monde. Soucieuse du sens du monde. Et quand je parle de sens, j'entends raison d'être. Par l'étude, le monde a raison d'être. A raison d'être. Le monde a raison. Comme on dit, il a raison. Je joue sur le mot. Le monde a raison d'être. Mais ça, c'est seule l'étude qui peut arriver, qui peut donner sens au monde. La raison d'être du monde, ça n'est pas, comme on croit, l'exploitation par l'homme des ressources de la nature, ou la consommation effrénée des produits de la terre. C'est pas ça la raison d'être du monde. Le monde n'est pas là pour ça. Ou n'existe pas pour cela. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là, l'égocentrisme bourgeois, le monde n'est là que pour la satisfaction de mes besoins, l'égocentrisme bourgeois, l'ego, centre du monde, a remplacé quoi ? L'anthropocentrisme théologique. C'est ça qui est extraordinaire, parce que, alors, vous ne savez peut-être pas l'histoire des idées, mais les modernes, les anciens modernes, les Bacon et compagnie, s'en sont pris à la science antique, s'en sont pris à la théologie, parce qu'elle était anthropocentrique. Ah non ! Le monde ne tourne pas autour de l'homme. Le monde, l'homme n'est pas le tachlit du monde. Le monde, l'homme n'est pas le but du monde. Ah, ils faisaient des malins. Mais en vérité, ils n'ont fait que substituer à l'anthropos, comme centre du monde, ils n'ont fait que substituer l'ego. C'est quand même dans le genre de déchéance. C'est une sacrée déchéance. L'ego centrique. L'ego est au centre du monde. Le monde est là pour que l'ego l'exploite et s'en nourrisse. Le Dvar Torah, ce qu'on appelle le Dvar Hashem, les livrets Torah, pour être, pour mériter le titre de Dvar Hashem. Les livrets Torah, c'est quoi le Dvar Torah ? C'est la parole sur le monde des Chachamim. En tant que cette parole révèle à la fois l'énigme révèle l'énigme en tant que telle, en tant qu'énigme. Donc pas d'exhibition, ni d'obscénité. Révèle l'énigme, c'est-à-dire révèle le caractère énigmatique et la beauté des choses. C'est-à-dire, la parole des Chachamim montre combien le monde est plus énigmatique qu'il n'y paraît. Et c'est ça qui fait sa beauté. Parole sage, éminemment signifiante. Tout comme le mot, le shem, disent les chassidim, révèle la chose, la parole du chacham révèle le monde. On ira plus en détail la prochaine fois. Enfin, on finira cette gloire et on abordera à la question, la critique par Rabbi Eliezer Amodaï de Paul. Dans deux semaines.
Deux semaines. Non, c'est le lendemain du mariage de Benjamin. Le 17.
Sur lendemain. Mardi.
Mais là, c'est dimanche.
Mardi 8.
Mardi
8.
Mardi
8.
Excuse-moi.
Ça va, sûrement.
Ça va. Non, oui, ça.
J'espère. Et rendu. Eh, moi aussi, j'espère. J'espère ne pas être en inverse. Ah, ah, t'avais prévu le coup ?
J'avais vu. Ça va, on sait.
Qu'est-ce que tu fais en même
temps ? Ma sœur.
Ah.